Radio Okapi.
Le journal grâce à Mzati Massanzi.
Criminalité dans la ville de Kinshasa. Encore deux autres personnes tuées cette nuit. Il s'agit des chauffeurs des taxis dont les corps ont été découverts ce matin. L'un sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe et l'autre sur l'avenue Poilour dans la commune de Limété. Une situation qui inquiète l'association des chauffeurs du Congo. Au Nord Kivu, six familles se disputent la paternité d'une orpheline dont la mère a été tuée par une balle perdue lors des événements survenus en mai dernier dans le site des déplacés de la 8e CEPAC à Mugunga dans la commune de Karisimbi à Goma. L'affaire est instruite au tribunal pour enfants de Goma pour départager les différents adversaires, nous dira tout à l'heure Gabriel Wamenya. L'invité de la rédaction ce midi est le coordonnateur provincial du programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient Patrir Maniema. Alphonse Mata s'exprime sur la détermination de cette structure de travailler au bénéfice de la communauté après une mission de supervision conjointe gouvernement FIDA dans cette province. À toutes et à tous, bonjour. Ici à Kinshasa pour commencer, deux chauffeurs ont été retrouvés morts ce matin. L'un des corps est ramassé sur le boulevard du 30 juin dans son croisement avec l'avenue Batetela et l'autre sur la route poids lourd. Selon le président national de la SECO, Association des chauffeurs du Congo qui parle de meurtre, les assaillants ont changé de stratégie. Ils neutralisent les chauffeurs avant de les jeter sur la chaussée pendant que le véhicule continue de rouler. Un incident qui intervient malgré l'implication annoncée de la police nationale congolaise de mettre fin aux tueries dans la ville. Une situation qui inquiète l'association des chauffeurs du Congo, ASECO. Selon le mandataire national de cette association, Jean Mutombo, les corps des victimes ne sont pas encore identifiés et la police scientifique est à pied d'œuvre. Suivez son témoignage au micro d'Étienne Lissoumbo.
La scène est telle qu'on lui a arraché les véhicules en arrivant sur le boulevard vers l'avenue Batetela, en allant vers la gare centrale. Son corps est jeté en pleine chaussée par les meurtriers et les véhicules sont passés sur lui, son pied et sa jambe droite cassés, et voire même sa tête est fracassée.
Contacter la police nationale annonce fournir d'amples détails dans les heures qui viennent. Pendant ce temps au Nord Kivu, un militaire du contingent sud-africain de la force de la SADC, Samir RDC, déployé à Goma, a été tué par balle la nuit du vendredi à samedi par un homme armé non identifié non loin de l'aéroport de Goma. Cette information est confirmée par plusieurs sources qui ajoutent que 5 personnes ont été arrêtées pour raison d'enquête. Le maire de Goma dit avoir pris certaines mesures pour renforcer la sécurité dans cette zone réputée pour ses cas de criminalité. Sifa Maguru y revient avec d'autres détails.
L'incident s'est produit dans la nuit du vendredi à samedi, alors que ces militaires sud-africains en tenue civile regagnaient sa base située à l'aéroport international de Goma en revenant d'un bar-restaurant. C'était au croisement de la route principale et d'une avenue du quartier Bujovu en commune de Karisimbi, affirment les témoins. Son corps a été découvert samedi très tôt. D'après des sources concordantes, ce bar-restaurant a été scellé samedi soir par la police sur ordre des autorités judiciaires. La police a également procédé à l'arrestation de 5 personnes, y compris le gérant du bar, ainsi que 3 ressortissantes rwandaises en séjour irrégulier. Pour l'instant, il n'y a aucune communication officielle ni de l'armée ni de la SAMI RDC concernant cet incident. Signalons en outre que cette partie de Bujovu aéroport jusque dans le Nyiragongo connaît une surmilitarisation. De nombreux cas de criminalité y sont chaque jour enregistrés. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, une centaine de jeunes de la ville de Beni exigent une formation militaire accélérée pour faire face à l'avancée des rebelles du M23 et aux attaques des ADF. Ils ont passé une première nuit au stade de Kangaembi dans la commune de Mulekera. Samedi matin, le chef d'état-major général adjoint des FARDC en charge des opérations et renseignements s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. André Kitengi.
C'est depuis vendredi matin que ces jeunes ont pris d'assaut le stade de football de Kangaembi de la commune de Mulekera pour exiger des autorités congolaises une formation militaire accélérée. L'objectif, selon eux, est de s'organiser et de se préparer à combattre les rebelles du M23 et les ADF aux côtés des FARDC. L'un des jeunes explique.
L'objectif, c'est nous avons demandé au service de sécurité une formation militaire accélérée. Il y a une menace ici depuis plus de 10 ans, les ADF tuent à Beni. Il y a également la menace des M23. Nous avons besoin de savoir comment manier une arme et après, le gouvernement va devoir nous doter des armes et nous-mêmes, nous allons défendre chez nous.
En séjour à Béni, le chef d'état-major général adjoint des FRDC en charge des opérations et renseignements, le général Jacques Tchali Gonzandourou, s'est rendu sur le lieu ce samedi. Il était question pour lui de s'enquérir de la situation sur place. Selon ces jeunes, le général Jacques Tchali Gonzandourou les a encouragés et leur a promis de transmettre leurs demandes à la hiérarchie militaire.
Il nous a encouragés, il a dit qu'il est fier de nous, il a dit cependant qu'il va transmettre le message à son hiérarchie, que l'hiérarchie lui cherche un espace où nous serons formés et après il va nous appeler.
Toujours selon eux, déjà une vingtaine de jeunes favorables à une formation militaire ont été enregistrés par le responsable de recrutement au sein des FRDC. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nous restons dans cette région pour vous dire qu'au moins 10 000 déplacés de guerre vivant à Lubero Centre sont sans assistance humanitaire depuis 2 mois. Selon l'administrateur du territoire de Lubero, ces déplacés manquent de nourriture, de logements et d'eau. Le colonel Alain Kiwewa plaide pour une assistance humanitaire à s'y déplacer auprès du gouvernement congolais et des organisations humanitaires. Le colonel Alain Kiwewa est au téléphone d'André Kitenge.
Nous avons constaté que chez nous ici, il y a beaucoup de déplacés. Nous estimons se déplacer même à 10 000. Presque tous sont venus du sud vers le nord, cherchant des lieux un peu beaucoup plus sécurisants. Alors, le problème de logement se pose. Certains sont logés également dans certaines églises et certains sont logés également dans certaines salles que nous appelons des salles polyvalentes. Et d'autres sont même logés dans des maisons inachevées, dans de très mauvaises conditions. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas vraiment à boire parce que le problème d'addition d'eau aussi se pose. C'est pourquoi je voudrais demander au gouvernement s'il peut venir en aide à cette population vulnérable, en vivre comme en non-vivre. Je voudrais solliciter aussi auprès des organismes, ça sera comme une alerte. Nous cherchons des réponses, si on peut nous trouver une assistance en vivre comme en non-vivre et en médicaments également et voir de quelle manière on peut trouver aussi une solution pour de l'eau parce que le problème de route, ça se pose également.
Retour au Nord Kivu où l'on nous signale que 6 familles se disputent la paternité d'une enfant orpheline dont la mère a été tuée par une balle perdue lors des événements survenus en mai dernier dans le site des déplacés de la 8e CEPAC à Mugunga. C'est dans la commune de Karisimbi. L'affaire est instruite au tribunal pour enfants de Goma pour départager les différents adversaires. Le point de la situation avec vous, Gabriel Wamenya.
Il s'agit de l'enfant Uwezo Kabetu Nadia, âgée aujourd'hui de 8 mois, fille de la défunte Nyiransabomana Mbonye, déplacée venue des escarpements tout autour du village Chacha, en groupement Mufunishanga. Juste après le décès de sa mère, le bébé a été placé dans un orphelinat de la place sur recommandation des autorités provinciales pour sa prise en charge. L'organisation HAD, qui s'occupe aujourd'hui de l'enfant, débaptisé grâce par l'ONG, affirme avoir déjà reçu plus de 6 familles qui viennent réclamer aujourd'hui la paternité de l'enfant Uwezo Kabetu Nadia à en croire sa prétendue famille paternelle. L'affaire est actuellement en instruction au niveau du tribunal pour enfants pour déterminer les pères biologiques de l'orpheline Nadia. Au cours de l'audience d'hier jeudi, les juges d'instruction a demandé à toutes les parties concernées d'apporter chacune les éléments de conviction avant le prononcé de la décision finale du tribunal. L'audience prochaine est prévue le 25 juillet. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Province du Maniema, publication ce samedi du gouvernement provincial. C'est une équipe de 10 ministres sans aucune femme. Un député provincial et un conseiller communal font leur entrée dans ce gouvernement. Les détails avec vous. Florence Kizalunga.
Sans aucune femme, le gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse nomme M. Alikia Masawili comme ministre provincial des Finances, Hydrocarbures Numériques, Coopération Décentralisée, Relations avec l'Assemblée Provinciale, Communication, Médias et Porte-Parole du Gouvernement. Lawa Moselemani Taylor, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Damien Bin Djuma occupe les ministères de Mines, Énergie et Industrie. Kasongo Wamuya George lui prend la Justice, Droits Humains, Économie Famille et Commerce. Malungula Ouseni Kajol, il est ministre de l'Éducation, Fonction publique et Emploi. Docteur Kingombe Choma Alexis, ministre de la Santé publique, Affaires sociales et Action humanitaire. Jeunesse, Sport, Loisirs, Culture et Arts, Genre et Famille. Masumbuko Lutaka Franci va s'occuper des affaires foncières, environnement et tourisme. Tandis que Hassani Somwebini Choma, de l'agriculture, développement rural, pêche et entrepreneuriat. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que les opérateurs économiques de l'Ituri sollicitent une dérogation par rapport à la décision du ministère des Commerces extérieurs interdisant l'importation de boissons gazeuses. Selon la Fédération provinciale des entreprises du Congo, les industries brassicoles nationales ne couvrent pas les besoins des consommateurs de cette province qui dépendent exclusivement des produits de l'Ouganda. Selon cette structure, l'application de cette mesure en Ituri est tributaire de la réhabilitation des routes et des garanties sécuritaires. À Bounia, Isaac Raymond.
Les commerçants de l'Ituri se sont réunis vendredi à Bounia pour analyser l'application de la mesure du ministère des Commerces extérieurs interdisant l'importation des boissons gazeuses sur toute l'étendue nationale. Les membres de la FEC ont relevé certains défis pour son exécution en Ituri. Il s'agit notamment de l'absence d'une industrie brassicole en Ituri, l'impraticabilité des routes nationales dont Komanda Beni où se trouve une usine locale, ainsi que l'insécurité qui rend inaccessible certaines entités. Les commerçants qui œuvrent dans ce secteur ont sollicité une dérogation adressée au ministère des tutelles en vue de répondre aux besoins des milliers de consommateurs qui dépendent des produits importés des pays voisins. Le vice-président de la FEC, Faustin Tchada.
L'usine ne se trouve pas ici chez nous, c'est à distance de chez nous, avec la situation de la route. C'est comme ça que ça fait que ça ne couvre pas toute la province. C'est ici qu'on a appelé les opérateurs économiques de ce secteur, puis essayer de voir comment, au niveau des ministères, faire la dérogation.
Selon la FEC, la proximité de certains territoires, dont Aru, Maïgi et une partie d'Irum avec l'Ouganda, qui a une incidence sur les prix, justifie aussi cette dépendance des produits importés par rapport aux boissons fabriquées dans les pays. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et dans le Congo central, le territoire de Luozi est entouré par le fleuve Congo. Cet enclavement occasionne le pourrissement des produits agricoles à cause des perturbations des traversées par bac. Luozi ne dispose que d'une seule voie terrestre à partir du territoire de Sekebanza. Jean Kinavuidi, un des notables du territoire de Luozi qui l'affirme, indique que cette unique voie pour accéder à Luozi par route est dans un état de délabrement indescriptible. Pour répondre à la question liée à la dépendance de la population de Luozi au bac, Jean Kinavuidi plaide auprès des autorités provinciales pour la réhabilitation de la dite route. Nana Plurich Mambou, Radio Kapi Matadi.
Selon Jean Tuvingila, pour atteindre Luozi, en dehors de la traversée du fleuve Congo par bac moteur à travers quatre débarcadeurs, dont celui de Kimbemba à l'entrée du village Malangalombe, ainsi que celui de Mpioka à la cité de Mbansangungu, il existe une seule voie terrestre. Celle-ci part de l'agglomération de Kwakwa en territoire de Sekebanza, en passant par les chefs-lieux du secteur de Nsumbi jusqu'au centre commercial de Ndomba en secteur de Kikenge à Luozi. Selon Jean Tuvingila, cette route est aujourd'hui dans un piteux état. Dans les temps, c'était un trajet de 8 heures, mais aujourd'hui, il faut faire 2 à 3 jours pour les petits véhicules. Les grands véhicules, eux, prennent 1 à 2 semaines de route, d'où son appel aux autorités pour sa réhabilitation. Jean Tuvingila.
Mais c'est du calvaire. Vraiment, la population souffre. Donc, c'est comme on le dit que tout pourrit chez nous. Parce qu'il n'y a plus de véhicules à cause de la route.
La réhabilitation de cette route va limiter la dépendance de la population au bac moteur, aujourd'hui sujet à des pannes récurrentes dues à sa vétusté, car il est mis en service depuis 1997. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye demande au gouvernement de se pencher sur la construction des logements sociaux et les mécanismes de régulation des coûts du loyer, alors que ces 20 dernières années, le prix des locations a flambé dans la capitale. Entre 1994 et 2014, les loyers ont augmenté de 256% selon des données gouvernementales, ce qui rend les logements de plus en plus inaccessibles. Le Nigeria annonce poursuivre la plateforme américaine Meta pour le non-respect de la protection des données et sur les lois sur la protection des consommateurs et de la vie privée. Le Nigeria réclame notamment 220 millions de dollars de pénalités aux géants américains.
L'invité.
Nous recevons comme invité Alphonse Mata. Il est coordonnateur provincial du programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient PADRIR. Après la mission de supervision conjointe gouvernement FIDA de toutes les activités financées par PADRIR dans le portefeuille FIDA au Maniema, ce programme promet de s'améliorer et de donner un bon rendement à la communauté. Alphonse Mata s'entretient avec Florence Kizalonga.
Monsieur Alphonse Mata, bonjour.
Bonjour madame journaliste.
Après près de 10 jours avec la mission de supervision conjointe gouvernement FIDA dans vos installations pour voir l'état d'avancement du projet PADRIR, alors après la présentation de résultats du terrain, comment appréciez-vous ce travail au besoin? Quelles sont vos impressions?
Les impressions sont bonnes, d'autant plus que il a été clairement constaté les avancements du projet. Il a été clairement remarqué au travers les témoignages des bénéficiaires, au travers des activités effectivement réalisées sur le terrain, que le PADRIR a fait des avancées significatives. Et ça nous réjouit que ça soit révélé comme tel, et aussi des recommandations qui sont très constructives et qui nous permettront d'améliorer notre travail dans l'avenir.
Monsieur Alphonse, ça ne sera pas pour vous l'occasion maintenant de croiser les bras parce qu'on a applaudi ce que vous faites et à cela vous pouvez vous reposer?
Pas du tout, pas du tout. Il y a eu beaucoup de recommandations. Il y a eu beaucoup de recommandations qui nous permettent encore de revoir certaines choses, la manière dont elles ont été faites et aussi accélérer sur certains points. Donc, à côté de cela, on n'est qu'à la moitié de l'année 2024. Nous avons d'autres activités qui n'ont pas encore été réalisées pour l'année 2024. Donc, il n'y a pas raison de dormir sur son laurier.
En quoi est-ce que vous pouvez garantir la population du Maniement que vous allez changer votre façon de travailler suivant les recommandations formulées en votre faveur aujourd'hui?
Oui, déjà, la mission de supervision a reconnu la qualité du travail. Donc, nous allons continuer à travailler. Et aussi, là où il y a eu des petits soucis, et nous allons travailler ensemble avec le FIDA ainsi que les experts du gouvernement congolais pour ressortir des notes techniques sur tous les aspects qui ont été relevés. Et je pense que les deux délégations ont des compétences avérées sur les différentes recommandations et à sortir de ces notes techniques, nous travaillerons sur les plans d'action et cela nous permettra de rencontrer les préoccupations des uns et des autres et améliorer la qualité du travail qui est déjà très bien apprécié aussi.
Vous avez reçu des recommandations de la mission. Est-ce que de votre côté, PADRIR, vous avez aussi des recommandations à formuler côté mission?
Oui, nous avons formulé notamment la recommandation de voir que tout ce qui est ressorti comme préoccupation de la mission de supervision ne soit pas simplement des recommandations, mais que cela soit accompagné par des notes techniques sur chaque aspect. Et cela nous permettra cette fois-là directement à prendre le taureau par les cornes, comme on le dit. Donc, c'est ça la recommandation que moi je peux formuler auprès des délégations, c'est-à-dire les FIDA et le gouvernement.
PADRIR distribue les semences aux gens, ils sèment et cultivent, mais n'ont pas de route pour évacuer ces produits des champs. À quand les travaux des infrastructures routières?
Les infrastructures routières, nous pouvons dire que les gens ont comme impression que rien n'a encore débuté, mais au niveau des PADRIR, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup d'avancées parce que ce n'est qu'au mois de mai que les fonds ont été disponibilisés pour le PADRIR, mais aujourd'hui, nous sommes suffisamment avancés dans la procédure des passations des marchés pour les études techniques et études d'impact environnemental, mais aussi pour le recrutement de l'assistance à maîtrise d'eau pour ces travaux-là. Donc, nous avons suffisamment avancé dans ces sens-là et nous espérons que d'ici le mois de janvier 2024, nous pouvons déjà commencer à attribuer le marché pour les travaux.
Est-ce que après ces exercices, ceux qui n'avaient pas encore signé les protocoles, ça sera pour vous l'occasion maintenant de signer les protocoles avec vos bénéficiaires?
Oui, nous avons eu beaucoup de non-objections avant la supervision et même pendant la supervision et nous allons continuer à signer ces protocoles-là, les protocoles opérationnels pour lancer les activités sur certains domaines. Donc oui, nous allons continuer sur la même lancée.
Monsieur Alphonse Mata, merci.
Merci beaucoup, madame journaliste.
Notre invité Alphonse Mata répondait aux questions de Florence Kizalunga depuis la ville de Kindu au Maniema. Voilà qui met fin à ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Alain Rung. Mimi Kindou a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci pour votre fidélité à la fréquence de la paix et excellent dimanche chez vous.